Le nucléaire. Le nucléaire est-il si polluant que ça? On voit souvent des gigantesques cheminées avec d'énormes nuages de fumée qui s'en dégagent. Ces photos, souvent utilisées dans le but d'alarmer et de créer la panique, ou bien de désinformer sur le nucléaire afin de faire les gros titres. Mais en réalité, ces nuages, que sont-ils? Bien, il s'avère qu'ils ne sont pas polluants, c'est simplement de la vapeur d'eau, jamais en contact direct avec les réacteurs et qui ne sont en aucun cas chargés de quelconque matière radioactive, qui pourrait nous retomber dessus par le biais de la pluie. Quitte à parler de pollution, il suffirait de descendre sous terre, là où existe tout un réseau souterrain bien moins visible de tuyaux qui, eux, rejettent en petite quantité des bactéries, des produits anticorrosifs et qui présentent des traces d'hydrogène faiblement radioactifs, le tritium. À défaut de faire les gothites avec des photos censées alerter, ça aurait au moins le mérite de vraiment parler de la partie polluante des centrales nucléaires. Oui. Évidemment, comme toutes nos énergies actuelles, le nucléaire pollue, mais surtout pendant la construction des centrales et l'extraction de l'uranium, et est souvent pointé du doigt pour la peur qu'il instille à cause de la méconnaissance du public sur le sujet et le trauma qu'a produit dans la pensée collective les armes nucléaires ou Tchernobyl. Pourtant, même les énergies dites les plus vertes et propres ont besoin d'une grande quantité de plastique, silicium, lithium et autres, et pour le solaire, jusqu'à 16 fois plus de matériaux sont requis pour une production d'énergie égale. Cela signifie que pour produire une tonne de kilowattheure, il faut consommer 16 fois plus de matériaux pour du solaire que pour du nucléaire. De plus, pour des productions identiques, le bilan CO2 du nucléaire est extrêmement faible. 1 kg de CO2 rejeté par kilowattheure pour le charbon, contre 55 g pour le solaire, 14 g seulement pour l'éolienne, et pour le nucléaire, on a une moyenne mondiale de 6 g de CO2 par kilowattheure, ce qui en fait le producteur de CO2 le plus faible. A savoir que ces données sont établies en prenant en compte l'entièreté du processus de production d'énergie. Ce qui fait que le nucléaire est là encore 9 fois moins polluant en moyenne que le solaire. Lorsque ce constat est fait, un argument vient souvent s'ajouter au contre le nucléaire, celui de la production de déchets nucléaires. Pleine d'idées reçues, souvent loin de la vérité. En réalité, 96% des déchets nucléaires sont réutilisables sous une forme nommée MOX et peuvent être de nouveau exploités. Pour ce qui est des 4% restants, ils sont nommés déchets ultimes et sont enfermés dans des fûts en inox, eux-mêmes enfermés dans de grosses dalles de béton, puis stockés. Pourtant, on voit des chiffres assez gros sur les déchets nucléaires, notamment celui de 1 700 000 m3 pour 2020, juste pour la France. Mais on se garde bien, lorsque ces chiffres sont avancés, de préciser de quoi ils sont constitués. Dans les faits, se cache sous ce nombre une très grosse quantité de gants, chemises, équipements de protection divers et le béton lui-même. Car tout ce qui est utilisé dans le périmètre d'une centrale est considéré comme déchets nucléaires, et ce, même si pour une très grande quantité, il n'y a pas, ou peu, de traces de radioactivité dans ces déchets. Et seuls 0,25% de ces déchets sont des déchets radioactifs de longue durée et dangereux, c'est-à-dire ayant un impact direct sur la vie et son environnement. Si on regroupe les déchets dangereux des 60 ans de production d'électricité française par le nucléaire, ils tiendraient dans un cube de la taille d'un hangar à bateau. Rien d'ingérable donc. Ils sont vitrifiés, coulés dans du béton, puis regroupés à des centaines de mètres sous terre, sans incidence sur leur environnement. Le problème des déchets nucléaires souvent avancés joue plutôt sur la peur et le manque d'informations dont dispose le public. Ou bien, dans le cas des journaux, souvent des informations sans précision afin de terroriser et faire les gros titres. En voici quelques exemples. Avec cet article qui affiche pour son gros titre 6,4 millions de personnes contaminées au tritium présent dans l'eau potable. 284 communes touchées. Le tritium, c'est un nom qui, comme le plutonium, l'uranium et autres qui finissent en ium, fait peur. Pourtant, c'est un élément naturel produit à haute altitude sans incidence en petite quantité Et c'est parfait car les quantités relevées et qui furent présentées dans ces articles est 1000 fois inférieure au seuil de dangerosité de l'OMS. Le seul cas de pollution que l'on pourrait penser grave en France, c'est un incident qui date de 1980, où du plutonium avait été déversé dans la Loire. Les gens s'imaginent, juste comme ça, des quantités désastreuses de liquide verte brillant, et ça a été, à l'époque, traité comme un scandale arrivé à cause d'une erreur humaine. Alors qu'en réalité, on parle de 0,3 g déversé dans la Loire. Le tout, en raison du débit du fleuve, fut dilué à l'extrême, et n'a eu aucune incidence sanitaire ou écologique. Pour rappel, tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Et ici, la dose est ridicule et fut sans impact. Si on quitte la France, on peut alors se pencher sur la manière dont a été traité comme une catastrophe les 2 millions de mètres cubes rejetés dans la mer par Fukushima. 2 millions, ça fait peur. Sauf que ça fait en réalité 16 grammes de tritium, l'élément qui rend l'eau faiblement radioactif. 16 grammes déversés puis dilués dans l'immensité de l'océan, là encore, cela fut sans incidence, et ça a pourtant été présenté comme un cauchemar écologique. Par contre, le nuage de Tchernobyl, lui, a contaminé au césium-137 une très grande superficie des sols européens. Si ça n'a pas eu d'impact direct sur la flore, elle en aura sur la faune qui sera longuement exposée. Le césium-137 est radioactif pour environ 30 ans, correspondant à la durée de vie de son radioélément. Donc, est-ce que le nucléaire ne présente absolument aucun danger? Eh bien si, évidemment. Comme beaucoup de domaines, il présente des dangers, pour la vie comme pour la nature, mais bien loin des discours actuels et politisés. Il présente un réel danger s'il y a erreur humaine. Les centrales nucléaires sont contraintes à des protocoles sanitaires et de sécurité très stricts, et est sujet aux inspections de l'ASN, la police du nucléaire. Mais la présence dans un lieu d'une centrale nucléaire ne présente pas de danger direct pour son environnement, ainsi que ses habitants. Ce n'est pas un énorme bâtiment qui éjecte des radiations continues autour de sa structure à même d'anéantir toute forme de vie, comme pourraient le faire croire les médias et le cinéma, jouant aussi sur le fait que, oui, les radiations sont un danger invisible. On ne le voit pas, on ne le sent pas et on ne l'entend pas. Pourquoi des gens sont contre le nucléaire alors? Eh bien, c'est une histoire de lutte politique et idéologique. En France, le nucléaire est un outil politique et est aux uns ce que l'insécurité et le port d'armes est aux autres. Un moyen facile de faire peur. Et la peur, ça fait voter. Pour d'autres, la fin du nucléaire va avec l'idée qu'il faut stopper la croissance, s'inscrire dans une marche vers la sobriété, refaire corps avec la nature, stopper la consommation. Mais ça, impossible avec la présence d'une énergie pas chère, peu polluante et à profusion qui fait marcher les industries. Tant que le nucléaire existe et est exploité, à cause de son rendement, il réduit drastiquement les contraintes à s'adapter et à décroître. Être anti-nucléaire, c'est aussi un combat vers l'instauration d'une égalité des peuples. Évidemment, tout n'est pas rose dans la manière d'exploiter le nucléaire. Car oui, pour faire fonctionner des centrales, il faut enrichir l'uranium. Et c'est un quasi-monopole des pays du Nord qui possède 90% de la capacité de production de l'uranium enrichi. Pour les autres, ce n'est pas juste qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils en ont clairement pas les droits. Sinon, ils se retrouvent taxés de potentiellement souhaiter accéder à l'arme nucléaire, moyen facile de pression qui permet à l'Occident de garder la main mise sur l'énergie nucléaire et qui leur assure de toujours avoir un cran d'avance d'un point de vue économique, énergétique et militaire. Ça, évidemment, dans un combat idéologique, c'est pour beaucoup de ses détracteurs insupportable. C'est un frein réel à la paix et à l'égalité des peuples. C'est aussi être contre l'exploitation de certaines populations et pays. Actuellement, le Kazakhstan et d'autres, pour exemple avec le nucléaire. Mais c'est le cas pour beaucoup des énergies. Et c'est malheureusement toujours un problème d'éthique qui se pose sur toutes les énergies actuelles. Les métaux rares présents dans les panneaux solaires n'arrivent pas miraculeusement dans ceux-ci et sont le fruit d'exploitation de mines postées dans divers pays que l'on pille de leurs ressources en métaux et autres matières premières pour quasiment toutes nos technologies. Mais aussi, être contre le nucléaire, c'est une ouverture vers le libéralisme. Le nucléaire est pour des raisons évidentes de sécurité une énergie d'État. Elle ferme toute ouverture vers l'extérieur vers le lobbyisme et l'implication de tiers, là où les énergies renouvelables permettent la libre concurrence et sont produites un peu partout, avec des éléments venant de divers pays. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'Union européenne elle-même est en grande partie défavorable au nucléaire, car elle produit de fortes inégalités au sein même de son union, avec la possibilité d'indépendance énergétique de certains pays. Sans oublier que les énergies renouvelables reçoivent un fort soutien financier dans la recherche venant de diverses grandes puissances. En effet, quand on dispose d'une très grande partie de la capacité de production de certains matériaux nécessaires à la création de ces technologies ou une grande quantité de ressources d'énergie fossiles, on préfère investir dans le support d'une énergie encore en cours d'évolution et qui n'est pas si rentable en production pour faire face à une énergie qui produit énormément pour peu une fois les infrastructures construites. Enfin, si le nucléaire comme tel ne présente théoriquement que peu de dangers, les erreurs humaines, elles, existent. Et la réalité veut qu'effectivement, en cas d'erreur humaine, certaines répercussions peuvent être très lourdes. Et ces risques éventuels sont souvent pointés du doigt. Les « et si » et le manque d'informations du grand public sur comment fonctionne en détail tout ça permet d'effrayer et d'orienter la vie, alors qu'il serait bien plus intéressant de le voir comme une énergie idéale de transition vers des technologies futures, comme les batteries à l'hydrogène qui permettraient de stocker et de rendre déjà bien plus rentables et exploitables les énergies renouvelables. Je pourrais aussi citer les systèmes au cours de développement de panneaux solaires spatiaux par exemple. Le nucléaire peut nous offrir un sursis, le temps de trouver le moyen de rendre idéal ces productions d'énergie-là et nous permettre un basculement vers cette technologie avec un impact relativement minime sur notre environnement en attendant. C'est plutôt que d'investir dans des luttes économiques, politiques et ou d'intérêt, on investissait vers la science pour trouver ou renforcer des alternatives vraiment efficaces au nucléaire. L'épuisement des énergies sur lesquelles est bâti le fonctionnement actuel de l'humanité ne signerait clairement pas sa fin. N'oubliez pas que cette émission a pour but de vulgariser. Je ne peux prendre le temps d'entrer dans tous les détails, mais aucun de ceux-ci n'a été omis de manière à souhaiter orienter volontairement la vie. Les infos non données sont surtout là pour ne pas vous embrouiller avec des détails de formules, de pourcentages et de protocoles trop complexes. Cette émission ayant pour but d'informer, je ne peux que vous encourager à faire vous-même vos recherches ou à vous tourner vers les instituts spécialisés dans les domaines. Ne prenez jamais pour vérité ce que l'on vous a dit, ou ce que vous voyez sans évidemment rentrer dans l'idée que tout ce qui vous est présenté est forcément un mensonge. Regroupez quand c'est possible par vous-même les sources et les informations et la fiabilité de celles-ci, et ne cessez jamais d'avoir un esprit critique. Sachez que vous pouvez trouver les liens vers une grande partie des sources et documents qui ont servi à créer cette émission sur le site de Radio Pont 97 FM, sur le podcast à propos du nucléaire. C'était Friedrich sur Radio Pont 97 FM. Au revoir.